Si loin, si proche, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Carcenac, qui s'en revient d'un voyage à Cuba. Et l'avant-dernière émission de l'année, avant les vacances scolaires, ben, nous allons essayer de faire un peu le point sur ce pays. Hein, qui ne laisse pas indifférent, qui suscite encore beaucoup de passion, de controverses. Lorsqu'on écoutait, il y a encore quelques années, lorsqu'il était encore président de Reporters sans frontières, Philippe Ménard, il ne tarissait pas de critiques systématiques envers Cuba, hein, en omettant, je crois, des épisodes essentiels qui sont le progrès économique dans les domaines de santé, mais tu y reviendras, qui ont été réalisés, l'aide énorme que Cuba a apportée dans les luttes anticoloniales pour aider l'Angola, pour aider le Mozambique à s'affranchir des dernières colonies qui étaient des colonies portugaises. L'aide actuelle aussi énorme qui est apportée après celle qui fut apportée au Nicaragua des sandinistes, qui est apportée au Venezuela de Chavez, hein, l'énorme contingent de scientifiques, de médecins, le taux de scolarisation, l'espérance de vie, autant de paramètres qui montrent que on ne peut pas évidemment rejeter le régime castriste. Et comme le fait Ménard et comme le fait souvent la presse libérale. Alors, pour ce qui te concerne, Jean-Claude, tu es, depuis de longues années, hein, tu es resté fidèle à tes convictions de jeunesse. Tu as adhéré très tôt à la LCR.
Très tôt dans les années 80. Mais enfin, je faisais la politique depuis 68.
Tu faisais la politique. Oui. Voilà, donc tu es entré très tôt en politique. Et actuellement, tu es au NPA. Et tu es, bien en charge aussi, hein, avec une équipe autour de toi, du mensuel motivé.
Hein, mais oui, ça fait 10 ans d'ailleurs que je m'occupe du mensuel. Ouais. Ouais.
Alors, ton voyage à Cuba, est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a cette fascination qu'exerce Cuba, qu'elle est exercée sur Régis Debray, sur même des gens comme Madame Mitterrand, sur nombre de jeunes encore aujourd'hui.
D'abord, moi, je suis venu à la politique un peu par Cuba. Hein. C'était, je m'en souviens très bien, en 67, la mort de Guevara est un coup de tonnerre terrible, hein, parce que Guevara avait déjà acquis en 67 une figure internationale mythique. Et donc, sa mort nous a secoués et nous a amenés à nous interroger sur l'Amérique latine, sur ce qui se passait. Mais déjà, pourquoi ? D'abord, la révolution cubaine est incroyable. Imagine, tu as 82 personnes qui débarquent à Cuba dans un bateau qui vient du Mexique, hein, avec Fidel et Guevara dans ce bateau. Ils sont la plupart décimés. Il n'y a que quelques survivants, une quinzaine. Et 3 ans après, ils rentrent victorieux à La Havane.
Donc ça, c'est en 56 qu'ils débarquent.
Alors, ils débarquent en 56 et ils rentrent 3 ans après, le 1er janvier 59 à La Havane. Bon, alors, il faut dire, bon, ils ont mené une guérilla, mais si la guérilla triomphait, c'est que, évidemment, en face d'abord, il y avait une dictature qui était une impopularité absolue, parce que c'était Batista, on le dit, mais c'est la vérité. Cuba était le bordel des USA. Oui. C'était un régime répressif honni par la population. Donc, il y a les guerriers. Moi, ce que j'ai appris à Cuba aussi, c'est que s'ils ont triomphé, c'est qu'ils ont su s'appuyer sur des mouvements populaires plus classiques, des manifestations, des grèves, etc. La population était vraiment en effervescence. Donc, la conjonction de la lutte armée, mais aussi du mouvement urbain, a permis cette victoire. Et cette victoire, elle est fantastique. Elle est fantastique parce que, effectivement, ils vont instaurer un régime qui porte l'espoir de beaucoup, beaucoup de gens à gauche, quoi. Face à la grisaille de l'Union soviétique, on a un pays latino, d'abord, avec toute sa vitalité, etc., mais qui veut construire vraiment une autre société. Et ça nourrit l'espoir extraordinaire pendant des années. Hein. Alors après, bon, on va en tirer un bilan plus ou moins mitigé, mais quand même, au départ, il y a vraiment un autre monde qui se construit. Et Guevara lui-même disait, il faut construire un homme nouveau. Donc il y a toute cette théorie-là d'une sorte d'utopie en marche qui a fasciné des générations dont je suis. Hein.
Et tu vois une continuité entre... Par exemple, je sais pas, la révolution de 17, la révolution française, l'année 93, la commune. Et...
En tous les cas, le point commun, c'est que c'est des ruptures avec des régimes précédents insupportables. Hein, le tsarisme, la royauté, et là, une dictature. Donc voilà, ce sont des vraies révolutions, effectivement, qui essaient d'engendrer un monde différent, un monde meilleur. Le bilan qu'on peut tirer quand même de l'URSS, c'est que globalement, franchement, c'est pas une réussite. Hein. Moi, en tant que militant d'extrême gauche, j'ai quand même à la fois défendu le communisme, mais combattu ce type de régime. Hein. Alors que Cuba portait une autre espérance. Hein. Guevara notamment, qui allait travailler dans les champs, qui donnait l'exemple. Il y avait un enthousiasme. Et puis après, des acquis sociaux indéniables sur la santé. On va y revenir, hein, mais sur l'éducation. Et toute une population qui se met en marche. Moi, je pense que ça a beaucoup marqué. Après, il y a des erreurs ou des problèmes qui sont avérés importants, mais au départ, effectivement, on était porté vraiment par l'espérance cubaine. Quoi.
En discutant tout à l'heure, en préparant l'émission, on a évoqué le film de Michael Moore, Sicko.
Ouais. Hein,
et c'est d'autant...
Alors, effectivement, j'ai vu le film qui a une critique tout à fait justifiée du système de santé américain, puisque c'est en main des boîtes privées. Et puis, effectivement, quand on a une maladie grave, si l'assurance ne vous prend en charge, vous vendez la maison pour pouvoir vous soigner. Hein. Bon, à Cuba, c'est vrai, on l'a constaté. Bon, il faut dire d'abord que j'ai passé peu de temps à Cuba, hein, donc oui, ce sont que des impressions. Oui. Je prétends pas dire la vérité absolue, mais quand même, ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau de la santé, effectivement, il y avait une prise en charge totale, gratuite. Alors, on dit que les pharmacies ont des problèmes parce qu'elles sont peu approvisionnées. C'est vrai parce que Cuba subit un embargo de la part des États-Unis, mais ils fabriquent leurs propres médicaments aussi. Et globalement, on avait une population en bonne santé, prise en charge à 100%. Imaginez quand même la santé gratuite, c'est pas rien. On était même logé chez une femme qui nous montrait avec fierté tous ces médicaments parce qu'elle est elle avait beaucoup de problèmes, mais elle disait qu'elle était prise en charge totalement. Donc oui, ça c'est un acquis formidable. Hein. D'ailleurs, au moment où j'y étais, venait se produire le tremblement de terre en Haïti, et ils expliquaient qu'ils avaient envoyé beaucoup de médecins, de médicaments à Haïti, etc. Donc il y a aussi cette solidarité internationale au niveau de la santé. Et c'est pas un mythe que les Américains vont se faire soigner à Cuba. Oui. Maradona est allé se faire soigner à Cuba. Donc je pense qu'il y a un système de santé, effectivement, avec un haut niveau de qualification. Même s'il y a des problèmes de pénurie ou de fabrication de médicaments, il y a quand même une grande qualification des professionnels de santé dans ce pays. Quoi. Donc ça, c'est quand même formidable.
Hein. Tu évoquais l'embargo qui subsiste encore, même s'il me semble que Obama l'a allégé en partie. Et alors, cet embargo qui a été décrété, je te laisse... au niveau de l'histoire, à quel moment cet embargo a été décrété? Qu'est-ce qui l'a amené? Est-ce que ce n'est pas cet embargo qui a précipité totalement ce régime cubain, qui était un régime avec sa propre singularité, qui l'a amené un peu dans les bras du communisme soviétique?
Bon, alors la révolution cubaine en 59, on peut dire que c'est d'abord une révolution nationale, on peut dire, et démocratique. Hein. C'est-à-dire on veut l'indépendance. Cuba n'a jamais été indépendant avant la révolution cubaine en 59. C'était les Espagnols, puis les Américains ont mis la main dessus, et c'était des régimes fantoches, mais on peut pas dire qu'il y avait indépendance de... Donc là, c'est une révolution de l'indépendance, hein, déjà 59. Donc il y a ce côté national, nationaliste fort. En même temps, Je dirais que c'est une révolution sociale importante, hein, avec, comme je l'ai dit, sur la santé, mais aussi sur l'éducation, bon, des conquêtes, enfin, une volonté vraiment de transformer la société en profondeur. Mais ce n'est pas une révolution communiste. Au départ, Castro n'est pas communiste. C'est au bout de 3-4 ans, effectivement, il y a la pression des États-Unis qui, tout de suite, évidemment, veut renverser Castro pour mettre un fantoche au pouvoir. Donc, l'embargo, je crois que c'est 61, enfin 2 ans après.
Après la baie des cochons.
Ouais. Ça c'est autre chose. Hein. C'est 62, la baie des cochons. Là, les États-Unis n'ont eu de cesse de renverser le régime. Hein, de toute façon, donc ça c'est clair. Donc embargo économique, pression y compris militaire, c'était un fiasco quand même. Le débarquement américain, ils ont été repoussés. Donc il y a cette pression effectivement militaire-économique qui pousse. De toute façon, on est dans une époque aussi où le monde est divisé en deux camps antagonistes. Hein. C'est très difficile pour une petite île de 10 millions d'habitants de survivre, d'être indépendante. Donc assez vite, ils sont alignés sur l'URSS. C'est peut-être à cause de ça, d'ailleurs, que Guevara s'en va de Cuba en 65 pour aller combattre en Bolivie. Il y a peut-être des divergences à ce niveau-là. Mais je pense que, les difficultés économiques, le contexte politique font que Castro s'est assez vite quand même aligné sur l'URSS.
Alors, avec l'URSS, il y avait un accord économique, mais c'était une sorte de troc, je ne sais pas si le mot est totalement juste. Cuba produisait des millions de tonnes de sucre, de canne, hein, et dont les Soviétiques avaient besoin. Oui. En échange de quoi ils recevaient
Des tracteurs.
Pétrole, des tracteurs.
On a vu, l'empreinte soviétique se voit encore, d'ailleurs, au niveau des constructions. L'habitat cubain est un habitat de petites maisons individuelles, un étage, mais pas plus. Tandis que on voit des grands immeubles parfois à la soviétique, là, bien rectangulaires. Donc l'empreinte soviétique a été très très forte. Je pense que le problème, c'est justement la dépendance économique de Cuba par rapport à l'Union soviétique, parce que ils sont engagés dans la monoculture du sucre. À l'époque, ils voulaient faire 10 millions, c'était la grande Zafra, comme ils disaient, 10 millions de tonnes de sucre. Donc, ils vendaient à l'URSS en échange de l'industrialisation du pays. Ils ont sacrifié d'une certaine manière les cultures vivrières.
Voilà, ils étaient dépendants, tributaires.
Et donc, ils étaient dépendants de l'URSS. Voilà. Mais ils n'imaginaient pas que l'URSS allait s'effondrer, évidemment, parce que c'était une période relativement prospère. Enfin, non, je dis prospère, entre guillemets, parce qu'on a rencontré des Cubains qui sont nostalgiques de cette époque. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avec le troc, avec l'aide de l'Union soviétique, le pays se développe extraordinairement. Hein. On construit des routes, on construit des entreprises, on commence à produire. Et puis, le problème, 89, l'URSS s'effondre. Ouais. Alors là, c'est la grande catastrophe. Hein. C'est la grande catastrophe.
Mais le cours du sucre sur le marché mondial ne permettrait pas à Cuba de...
Non, parce qu'ils vendaient... Ils vendaient, je crois, ils le vendaient, mais ce n'était pas du troc. Ils vendaient le sucre à un prix bien supérieur à celui du marché mondial, à l'URSS. Donc, effectivement, l'URSS s'effondrant, la rentrée de devises s'effondre aussi, parce que le sucre n'a plus... Oui. Et puis, ils ont aussi échoué dans le fait d'arriver à 10 millions de tonnes de sucre. Ils n'y sont pas complètement arrivés. Et puis, sans l'URSS, plus rien ne fonctionne parce que vous avez manqué de pièces de rechange pour réparer les tracteurs, puis les usines ne fonctionnent pas. Donc là, c'est ce qu'ils appellent la période spéciale où vraiment une grande, grande crise économique terrible. Quoi.
Donc on voit, tu t'es promené à La Havane et puis dans l'île, on voit ces vieilles voitures, j'imagine, ces Volga,
D'abord, ce qui est frappant, c'est qu'on voit assez peu de voitures à Cuba. Nous, on a sillonné l'île. On avait loué une voiture pour un peu visiter parce qu'on avait un temps limité. Donc, on voit relativement peu de voitures. Et à la campagne, je reviendrai sur La Havane tout à l'heure, mais à la campagne, ce qu'on voit, ça m'a surpris, ça voit beaucoup de chevaux. Les gens se déplacent à cheval. Soit directement à cru hein, sur le cheval, soit avec des roulottes, etc. Même dans les champs, ce sont des vaches ou des chevaux. Hein. Donc, il y a y a des voitures, hein, mais franchement, les routes ne sont pas encombrées. Hein, c'est pas l'embouteillage. Hein. Donc, il ne reste quoi ? Il ne reste que les voitures de l'époque. Soit les voitures américaines des années 50. Ouais. Donc, vous imaginez, elles ont quoi, 70 ans. Donc, ils les bricolent et elles continuent toujours à rouler en dépensant je ne sais pas combien de litres de carburant.
Le carburant actuellement,
il vient essentiellement du Venezuela. Ouais. Le Venezuela le vend, hein, mais bon, effectivement.
Un prix.
Mais on peut dire que Cuba, franchement, est sur la voie écolo, un peu par nécessité.
Oui.
Peut-être même beaucoup par nécessité, mais je crois qu'ils ont fait cette révolution. Au niveau agricole, par exemple, il y a vraiment des campagnes. Il faut produire sain, il faut manger sain. Il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides. Je pense que ça va être la première nation à faire une agriculture entièrement écologique.
Oui, hein. Sans intrants.
Ouais. Ça, oui. Donc la question, c'était quoi ? C'était sur les voitures ? Mais les voitures, oui.
Oui,
voilà.
Alors d'ailleurs, on va pouvoir lancer peut-être le Buena Vista Social Club et cette musique.
Oui, parce que la musique est partout à Cuba. Hein.
Oui.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar.
Voilà, bon, nous reprenons après Buena Vista Social Club. Nous retrouvons à Cuba avec toi, Jean-Claude Carcenac, hein, retour de ton voyage. Alors, est-ce que tu peux, comment expliquer les réussites exceptionnelles pour un petit pays, je crois qu'il y a 11 millions d'habitants,
ouais,
dans le domaine par exemple du sport. Cuba est par exemple en gymnastique, en boxe, dans de nombreuses disciplines, en athlétisme aussi, a des champions remarquables.
Je ne sais pas si je peux vraiment l'expliquer, mais en tous les cas, ce qui est frappant, c'est l'éducation, quoi. C'est le développement de l'éducation. On a été vraiment, vraiment frappés de voir que tous les Cubains sont scolarisés. Donc, ils ont une uniforme, hein, filles et garçons, mais tous sont scolarisés et à des niveaux jusqu'à la fac, quoi, hein. Donc, je pense que ça peut expliquer, effectivement. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Ils disent on est le peuple. Ils ont conscience de ça. Hein. Même les plus critiques par rapport au régime nous disaient on est le peuple le plus cultivé d'Amérique latine. Et je crois que c'est vrai. Il y a un haut niveau de qualification. Donc, ils valorisent à la fois beaucoup la culture et aussi le sport. C'est les deux phases. Oui. Nous, on a vu plein de représentations théâtrales dans les rues, les écoles sans arrêt font des spectacles. Et puis après, le côté sportif, effectivement, voilà, ça fait partie de la culture cubaine, un peu comme à la Jamaïque ou les pays pauvres. Bon, s'investissent beaucoup là-dedans parce que bon, ça permet la valorisation de gens de classe les plus pauvres, etc. Donc je crois qu'il y a une grande volonté, effectivement, de montrer aussi au monde qu'il y a des exemples. Je crois que c'est ça aussi. Oui. Hein, c'est que le régime aussi veut montrer qu'il y a des réussites spectaculaires au niveau culturel et sportif. Le cinéma, tu parles du sport, mais le cinéma cubain est un cinéma vraiment très, très grande qualité. Très grande qualité. J'ai fait une petite pub là pour un film, je ne sais pas si c'est passé encore au Diago, mais qui s'appelle La Corne d'Abondance, qui est un film vraiment remarquable, un film cubain qui vient de sortir, et très critique aussi. C'est un peu paradoxal parce qu'on a un régime qui est très présent, on peut reparler du régime si tu veux, mais en même temps, au niveau culturel et au niveau de la parole, moi j'ai trouvé qu'il y avait. Enfin, les gens nous parlaient tout à fait librement, hein. Il ne faut pas croire que la peur tenaille les gens. Ils nous parlaient, peut-être en privé, je ne sais pas s'ils font pareil en public, mais en privé. Aucun problème.
Il y a un point sur lequel je voudrais te poser une question, c'est que pour avoir vécu aux Antilles, j'ai toujours été sensible à ce qu'on appelle là-bas le métissage aux Antilles. Bon, et on parle aussi au Brésil et je suis assez sceptique sur cette notion, hein, historiquement. Bon, à Cuba, lorsqu'on voit l'équipe de football, par exemple les sportifs, la plupart du temps, ils sont des Noirs. Et lorsqu'on voit les personnages politiques, qui ont des rôles politiques, souvent, ce sont des descendants espagnols. Alors, comment expliques-tu que cette césure...
Ça, c'est le poids des traditions. Mais je ne sais pas, je n'ai pas un avis tranché là-dessus. Moi, je te dis ce que j'ai constaté. D'abord, la population noire, c'est à peu près 20% de la population. Hein. Ça fait 20% à peu près. Bon, ils ont absolument, évidemment, les mêmes droits que les autres, etc. Apparemment, si tu veux, il y a une grande égalité. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait, par exemple, assez peu de couples mixtes. Donc, tu parles, toi, de la coupure entre ceux qui réussissent au niveau sportif et ceux qui sont au pouvoir, finalement. Mais cette coupure, on la voit aussi dans les couples. Hein. Moi, elle est dans la population. Oui. Donc, je pense que ça, c'est encore l'héritage du passé. Même s'il y a des efforts dans ce sens, je pense qu'au niveau des droits, en tous les cas, il n'y a pas de problème. Mais après, au niveau des mentalités... Oui. Encore qu'apparemment, moi, j'ai pas vu de conflit ou de problème entre noirs et moins noirs, quoi. Mais c'est un problème qui reste. C'est toujours difficile, peut-être.
Oui, comme pour le Brésil, on aura l'occasion. Alors, peut-être, parce que je vois que disposons aujourd'hui de un peu moins de temps que d'habitude, parce qu'il y a la fête de la musique, bien sûr, et... La radio est une véritable ruche aujourd'hui. Élie, Jonathan, Gilles, Christian, tout le monde s'affaire. Alors, il y a une question quand même qui me paraît importante, c'est justement cet engagement du NPA, hein, à la fois qui, comme tu le fais, soutient les aspects positifs, qui en même temps revendique, alors je te laisse le développer, hein, les cinq qui sont condamnés aux États-Unis.
Hein, donc oui, ça on ne le sait pas, oui. Dis-moi,
la position de l'engagement du NPA, hein, de ton groupe, de soutien à la fois, qui affirme un soutien, hein, et en même temps, qui réclame
des libertés
démocratiques.
Je crois que c'est assez simple à comprendre. Nous, on pense qu'il y a des acquis importants à Cuba, hein, santé, éducation, vie culturelle très, très développée. Il y a beaucoup d'acquis. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est quand même qu'il n'y a pas de misère à Cuba, il n'y a pas de pauvres, même si les salaires sont très, très, très bas. Si tu veux, on peut dire qu'on assure le minimum pour que les gens vivent. Et les denrées de base. Donc ça, c'est déjà pas mal. C'est comparé à d'autres pays d'Amérique latine, hein, où il y a une misère criante. Donc oui, il faut défendre les acquis. En même temps, je pense qu'il faut dénoncer l'embargo américain. Est stupide. Hein, il n'y a pas de raison que les États-Unis, depuis 30 ans maintenant, même plus, bloquent une petite île et ne commercent pas, etc. Même si Obama, il n'a pas levé l'embargo. Hein, il a juste permis aux exilés cubains d'envoyer de l'argent à Cuba. Bon, ce qui est pas mal parce que ça fait aussi des devises qui arrivent dans les familles. Donc, à la fois, il faut dénoncer tout ça, mais je crois aussi qu'il faut être critique par rapport au régime parce que c'est quand même le parti unique. Hein, c'est un, il n'y a pas une liberté de presse. Hein, tous les organes d'information appartiennent au gouvernement, la radio, la presse, il y a un seul journal, par exemple. Donc, moi, je crois qu'un vrai socialisme doit allier à la fois des progrès sociaux indéniables, mais aussi des libertés individuelles, parce qu'on sent une grande frustration aussi dans la population de ce côté-là. Hein. Internet n'est pas complètement libre, par exemple. Voilà.
Alors, peut-être avant que tu ne passes toi-même à l'agenda, pour terminer, rapidement, les perspectives souhaitable.
Alors, souhaitable.
Hein, pas celle que... souhaitable pour l'après-caste.
Souhaitable. Bon, moi, je pense qu'il faut que le régime se démocratise. Voilà, parce qu'il y a des choses hyper positives. On les a vécues, franchement. Et je pense que même les Cubains, les plus critiques, ont conscience qu'ils ont des acquis. Ça, il ne faut pas le perdre. Parce que si c'est le rétablissement du capitalisme demain, c'est les inégalités, c'est la catastrophe, c'est la perte de ses acquis. Donc, il faut préserver ses acquis. Mais je crois qu'ils ne seront préserver que si franchement le régime comprend qu'il faut ouvrir politiquement, qu'il faut accepter la discussion, il faut accepter les critiques, etc. Donc, moi j'espère que Raúl Castro, je l'espère, mais je ne suis pas certain, va avoir cette intelligence politique d'ouvrir les libertés, de donner les libertés élémentaires à un peuple.
Hein. Jean-Claude, deux ou trois événements pour terminer dans l'agenda qui paraissent importants, outre la grande manifestation pour cette grande journée du 24 mercredi.
Non, c'est jeudi 24. C'est le jeudi 24. C'est le jeudi 24, la manif a lieu au Pérou, 14h30. Donc là, il faut vraiment tous se mobiliser pour défendre. Là aussi, je parlais des acquis de retraite, alors peut-être à 60 ans. Et puis, je peux signaler aussi une autre manifestation, mercredi soir, 23 juin, c'est sur Gaza, avec des témoignages directs de gens qui se trouvaient sur la flottille, donc à la salle Pétrarque à 20h, mercredi soir.
Bah écoute, les auditeurs te remercient et à tous, hein, tous auditeurs, amis, techniciens, une bonne fête de la musique. Au revoir.